Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux, le jeu de frappe entre Tel Aviv et Téhéran se poursuit vendredi aux aurores. Celui-ci s'est déroulé au cœur de l'Iran. Ce dangereux ping-pong qui a débuté avec l'attaque du consulat iranien à Damas le 1er avril s'est prolongé ensuite par l'envoi de 300 drones et missiles iraniens vers le territoire israélien ne semble pour l'instant pas s'enflammer. Quelle forme cette ancienne guerre dite en sourdine est-elle en train de prendre? Bonjour Amélie Ferret.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense. Alors, semble-t-il, les Israéliens et les Iraniens s'en sont tenus pour l'instant à des ripostes mesurées. Est-ce votre analyse également? Pourquoi?
Alors oui, effectivement, on peut parler de riposte maîtrisée. Cependant, je pense qu'il ne faut pas minorer ce qui s'est passé. On n'envoie pas impunément des salves de 300 missiles et drones sur le territoire d'un pays. Effectivement, il n'y a pas eu de dégâts en termes de vie humaine en Israël, à part cette petite fille qui a été touchée dans le Negev. On peut s'en féliciter, mais je pense que ça aurait pu aussi ne pas se passer aussi bien. Donc je pense que la ligne rouge, pour moi, elle a quand même été franchi de la part de l'Iran. La question, c'est que voilà, le statu quo est rompu. Comment on arrive rétablir une forme de dissuasion mutuelle, c'est le problème aujourd'hui.
Il y a eu différentes analyses pour dire notamment que la riposte iranienne était orchestrée, sous-entendu, tout a été fait pour que ces drones, ces missiles soient interceptés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, oui, Israël s'est préparé avant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu des exercices de brouillage de GPS 10 jours avant cette attaque. Il y a eu des renseignements donc américains et possiblement des signaux qui ont été envoyés par l'Iran, mais ça ne veut pas dire que l'Iran restera toujours aussi courtois. Bon, on pourrait dire dans la volonté donc de prévenir d'une possible attaque. Et par ailleurs, il faut aussi souligner que quand vous attaquez un système de défense anti-aérien, comme c'est le cas, vous apprenez aussi de cette attaque. Et donc, la question pour moi qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine escalade entre ces deux pays, et qu'est-ce que l'Iran a tiré comme bénéfice en termes de renseignements aussi sur cette attaque, puisqu'on peut pas postuler que les Iraniens n'avaient pas en tête un deuxième coup par la suite.
Un mot sur la riposte israélienne cette fois-ci de vendredi dernier.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que la riposte israélienne, elle a ciblé un système qui en fait fait partie des S-300, c'est-à-dire aussi un système de défense anti-aérienne qui serait localisé donc à proximité des sites iraniens, notamment du site de Natanz, qui est donc le site d'enrichissement nucléaire iranien qui est utilisé pour faire du nucléaire militaire. Et on est dans une riposte qui vise clairement un système militaire, donc qui n'est n'engage pas des pertes civiles, mais qui montre aussi que la pénétration pour Israël dans l'espace iranien est possible en dépit justement de ces S-300 qui sont extrêmement redoutés, qui sont des systèmes russes.
Donc à cet égard, la frappe israélienne a surtout démontré que l'espace aérien iranien était violable.
Exactement, et qu'il n'y avait pas de bulle d'inviolabilité effectivement du territoire, et que les S-300 n'étaient pas invulnérables.
Bon, la grande crainte des pays de la région, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la crainte d'Israël, c'est tout simplement le fait que l'Iran parvienne à disposer d'une arme nucléaire, Amélie Ferret.
Oui, mais alors là, l'Iran aurait à peu près une semaine pour justement enrichir son uranium et faire la bombe nucléaire, même s'il y a toujours le problème de la vectorisation et donc de l'utilisation militaire. Donc en fait,
la vectorisation.
Oui, c'est-à-dire le fait de mettre cette arme nucléaire sur un vecteur, donc notamment un missile, pour l'envoyer sur un autre pays.
Et alors, en quoi cela poserait-il problème pour l'Iran?
Parce que en fait, il faut faire quand même un certain nombre de tests pour pouvoir le faire, et c'est pas aussi facile que.
Il suffit pas de mettre.
Exactement, de prendre
un composant et de le mettre dans un missile, puisque l'Iran, j'imagine, dispose d'une multitude de missiles.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un des leviers pour contrer un Iran nucléaire, c'est justement de viser son programme de missiles balistiques. Donc, on peut postuler. Enfin, l'Iran est un État du seuil. Effectivement, dans la région, il n'y a pas une volonté très importante importante des autres pays de voir un Iran nucléaire. Et c'était sur ça qu'avaient capitalisé Donald Trump et Netanyahou quand ils avaient fait les accords d'Abraham pour Israël, avec cette idée de créer un axe anti-Iran dans la région. Et d'ailleurs, le fait que la Jordanie, par exemple, ait aidé Israël à intercepter des missiles montre qu'il y a quand même une solidité de cette alliance-là. Apparemment, l'Arabie saoudite aurait aussi aidé en termes de renseignement.
Donc, ça signifie finalement que cette escalade que l'on voit, elle ne modifie pas les rapports de force dans la région.
Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, les renseignements qu'ont tirés les Iraniens sur les systèmes, les capacités de défense antiaérienne israéliens, et aussi les Israéliens, le fait de voir qu'ils peuvent effectivement taper un système S-300 en Iran, ça donne en fait des informations pour une possible frappe par la suite. Après, il faut voir que l'équation d'Israël aujourd'hui, elle est quand même assez compliquée, parce que on a là Netanyahou qui a fait un message pour dire qu'il voulait faire une offensive à Rafah avec l'idée donc de terminer potentiellement cette guerre contre le Hamas. La problématique du nord et du Hezbollah, puisque je rappelle qu'il y a toujours 80 000 personnes qui sont déplacées au nord d'Israël, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, et donc ça va être très difficile pour Israël de ne pas les rassurer, de ne pas traiter la menace du Hezbollah, qui dispose d'un arsenal d'environ 100 000 roquettes, donc ça veut dire des salves très nourries contre ce système contre le système de défense antiaérienne israélien, et donc possiblement des frappes sur Israël. Par ailleurs, donc toujours cette question de l'Iran, avec la continuation de ce que les Israéliens appellent le Mabam, c'est-à-dire la campagne entre les guerres, donc c'est-à-dire cette série de frappes qui font sur les positions iraniennes qui les menacent en Syrie. Donc on est dans un contexte très difficile pour Israël, parce qu'il y a une multiplicité de fronts, et il ne faut pas penser cette attaque de l'Iran simplement dans un silo iranien, mais il faut la remettre dans le contexte global et voir qu'en fait ça affaiblit beaucoup la position stratégique d'Israël. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a eu justement ce changement, cette continuation de cette politique à Washington de soutien à Israël, avec une nouvelle aide qui a été, serait acceptée.
Mais alors, qui est quand même, elle est, semble-t-il, paradoxale, cette aide, parce que donc il y a eu 5 milliards de dollars accordés à Israël, alors même qu'on se dit que Joe Biden, électoralement et peut-être moralement, voudrait en finir avec cette guerre à Gaza. Pourquoi, dans ce cas-là, fournir les moyens à Israël de poursuivre l'offensive, alors qu'il suffirait, je ne dis pas que c'est simple, mais il suffirait que les États-Unis fassent pression, ou par exemple renoncent à livrer des armes à Israël, pour que l'État hébreu soit obligé de cesser le combat.
Je dirais que les États-Unis, en fait, Israël, ils n'ont pas intérêt à ce qu'Israël soit fragilisé. Et cette aide américaine, elle va surtout aller pour recompléter les stocks sur la défense antiaérienne, c'est-à-dire les missiles qui sont utilisés pour intercepter d'autres missiles ou des drones, etc.
C'est si cher que ça, 5 milliards de dollars
Oui, ça coûte très cher. Ça coûte. D'ailleurs, on a vu que l'attaque pour Israël a coûté 7 fois plus que l'attaque pour l'Iran. Pourquoi ? Parce que il y a cette question des missiles, il y a aussi le coût de maintenir en l'air pendant 6 heures 100 avions de chasse, avec les carburants qui va avec. Et comme c'est des munitions de précision, en fait, ça coûte extrêmement cher à développer. Donc oui, ça coûte très cher. Après, il y a quand même des pressions américaines qui sont faites. On peut penser aux sanctions contre certaines unités de Tsahal, qui est quand même un geste extrêmement fort, et par ailleurs un soutien diplomatique moindre au Conseil de sécurité de l'ONU, avec les États-Unis qui se sont abstenus lors d'un vote pour le cessez-le-feu à Gaza. Donc je dirais que les États-Unis, ils sont ils oscillent entre l'utilisation donc du marteau un peu pour contraindre Israël, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, et donc en permettant quand même à Israël d'assurer sa défense.
Et alors, en conclusion, Amélie Ferret, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la suite donc de ce conflit ? Je parle cette fois-ci de la lutte entre Israël et le Hamas.
Pour Israël et le Hamas, ben la question, donc Israël est déterminé à terminer ce conflit et donc à aller à Rafah et à éliminer les personnes responsables du 7 octobre qui restent au sein de, donc qui sont cachées dans les tunnels, et éventuellement à libérer les otages qui restent. Le problème, ça va être comme depuis le début du conflit, le coût pour la population gazaoui et ensuite la question de l'après Gaza, c'est-à-dire qui va gérer la bande de Gaza.
Merci beaucoup Amélie Ferret. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo. Elle va nous parler de planètes géantes.